Chapitre 19. Des diamants et des étoiles. Merana suivit Katswané d'aussi près qu'elle l'osait, une centaine de questions tourbillonnant dans sa tête. Mais la sœur verte n'était pas le genre de femme qu'on tirait par la manche. C'était elle qui décidait à qui elle accordait son attention et quand. Anoura aussi adoptant profil bas, les deux femmes marchèrent à la traîne de Katswané, le long d'interminables couloirs, puis dans des escaliers de marbre au début. Et ensuite de pierre brute. Merana échangea quelques regards avec sa collègue grise, et son cœur se serra. Elle connaissait mal Anoura, pour être honnête, mais la voir afficher le stoïcisme d'une fille convoquée dans le bureau de la maîtresse des novices et déterminée à être courageuse n'avait rien pour la rassurer. Bien entendu, elle n'était ni l'une ni l'autre des novices, et pas davantage des gamines. Merana ouvrit la bouche et la referma, impressionnée par le chignon gris devant elle, où brillaient des lunes, des étoiles, des oiseaux et des poissons. Katswané était... Katswané, tout simplement. Merana l'avait rencontrée une seule fois, enfin, elle l'avait écoutée monologuer, quand elle était novice. Sans pouvoir cacher leur respect et leur crainte, des sœurs de tous les âges étaient venues la voir. En son temps, Katswané et Melaidrin avaient été le modèle par rapport auquel on jugeait toutes les nouvelles filles inscrites dans le registre de novices. Et jusqu'à Elaine Trakand, en tout cas durant la vie de Merana, aucune candidate n'avait réussi à être à la hauteur de ses critères, et moins encore à les dépasser. Sur bien des points, il y avait 1000 ans qu'une femme de son envergure n'avait pas figuré parmi les Aes Sedai. Par exemple, on n'avait pas d'exemple d'une sœur qui ait refusé d'être nommée représentante. Eh bien, Katswané l'avait fait, et même en 2 occasions. Dans le même ordre d'idées, elle avait aussi décliné le poste de chef de la Javert. On racontait aussi qu'elle s'était absentée pendant 10 ans de la tour, tout ça parce que le hall la pressentait pour le poste de Shir Damirlin. De toute façon, elle n'avait jamais séjourné plus que le strict minimum à Tarvalon. Des nouvelles de ses aventures arrivaient à la tour, stupéfiant les sœurs confirmées et faisant frissonner les novices et les acceptées. Si ce n'était pas déjà fait, Katswané figurerait un jour parmi les légendes de la Tour Blanche. Merana portait le châle depuis un peu plus de 20 ans, lorsque Katswané avait annoncé qu'elle se retirait du monde. À l'époque, elle avait déjà les cheveux gris. Du coup, au moment où avait éclaté la guerre des Aiel, 25 autres années plus tard, tout le monde la croyait morte depuis belle lurette. Mais 3 mois après le début du conflit, elle était réapparue, accompagnée de 2 champions, des hommes d'un âge vénérable, mais encore aussi durs que l'acier. Selon les racontars, Katswané avait eu plus de champions dans sa carrière qu'une autre sœur avait usé de paires de chaussures. À la fin de la guerre, quand les Aiel avaient levé le siège de Tarvalon, elle avait de nouveau pris sa retraite. Mais certaines Aes Sedai, à moitié sérieusement, affirmaient qu'elle ne mourrait pas tant qu'il resterait des aventures à vivre dans le monde.
« Et bien sûr, les novices adorent colporter les âneries de ce genre. »
songea Merana.
« Mais tout le monde meurt, même nous. »
Katswané restait néanmoins Katswané. Et si elle ne faisait pas partie des sœurs arrivées en ville après l'enlèvement d'Altor, on pouvait parier que le soleil ne se coucherait pas ce soir. Alors qu'elle entendait ajuster son châle, Merana se souvint qu'il était actuellement pendu à une patère dans sa chambre. Et alors, elle n'avait besoin de rien pour se rappeler qui elle était, s'il s'était agi de quelqu'un d'autre que Katswané. À une intersection, 2 matriarches regardèrent passer les 3 Aes Sedai. Merana reconnut Edara et Lane, toutes 2 capables de canaliser et très puissantes dans cet exercice. Si elles étaient venues à la tour dans leur jeunesse, elles auraient sans nul doute atteint un très haut niveau. Katswané continua son chemin sans remarquer, apparemment, la désapprobation des 2 naturels. Anoura, en revanche, fronça les sourcils, marmonna quelque chose et secoua la tête, faisant osciller ses multiples tresses. Pour sa part, Merana préféra contempler le sol. Bien entendu, c'était elle qui allait devoir se coller à expliquer à Katswané le « compromis » conclu la nuit précédente avec les matriarches, avant que les autres sœurs et elle soient conduites au palais. N'ayant pas participé au débat, Anoura n'était pas au courant. Et il ne fallait pas espérer tomber sur Rafaela, Vérine ou quiconque d'autre à qui Merana aurait pu refiler le fardeau. De fait, il s'agissait bien d'un compromis. Peut-être le meilleur possible dans les circonstances actuelles. Mais il y avait peu de chances que Katswané voie les choses ainsi. Et Merana aurait donné cher pour ne pas être la personne chargée de la faire changer d'avis. Servir des infusions pendant 1 mois d'affilée aurait été largement préférable. Merana regrettait de ne pas avoir mieux tenu sa langue face au jeune Altor. Savoir pourquoi il avait affecté au service des infusions ne l'avait pas consolé de s'être privé de tous les avantages qu'elle aurait pu tirer de cette position.
Pour son égo, elle préférait penser qu'elle avait été entraînée dans les entrelacs de la trame générée par un Taveren. Mais en réalité, il était fort à craindre que les yeux du jeune homme, semblables à des gemmes gris verts, l'aient terrorisée au point qu'elle bredouille comme une gamine. Quoi qu'il en soit, elle avait offert à Altor tous les avantages sur un plateau. Elle aurait voulu... Les souhaits étaient un hochet pour distraire les enfants. Merana avait négocié un nombre incalculable de traités et de pactes, dont quelques-uns avaient vraiment servi à quelque chose. En outre, elle avait mis un terme à 3 guerres, en étouffant dans l'œuf une bonne dizaine de plus. Face à des rois, des reines et des généraux, elle avait su faire triompher la raison. Et malgré tout, Merana se jura de ne pas se plaindre une seule fois, même si cet homme la forçait chaque jour à jouer les servantes, si Séonide voulait bien apparaître à la prochaine intersection. Ou Masuri, ou Faeldrin, ou n'importe quelle autre sœur. Au nom de la lumière, si elle avait pu cligner des yeux et découvrir que tout ce qui s'était produit depuis son départ de Salidar n'était qu'un rêve. Bizarrement, Katsuone conduisit les deux sœurs jusqu'à la petite chambre que Bera et Kiruna partageaient au fin fond du palais, dans les quartiers des domestiques, pour tout dire, au sous-sol. Dans la pièce, un soupirail donnant sur les pavés d'une cour laissait entrer un peu de lumière, mais l'atmosphère restait sombre. Des capes, des sacoches de sel et quelques robes pendaient à la grande patère qui tenait lieu d'armoire. Le parquet, très basique, était abondamment rayé, même si on avait apparemment fait pas mal d'efforts pour le repolir. Une table branlante se dressait dans un coin, et dans un autre, un semblant de coiffeuse sur laquelle trônait une cuvette et un broc faisait office de table de toilette. Merana étudia un instant le lit étroit, guère moins large que celui qu'elle devait partager avec Séonide et Masuri, 2 portes plus loin. Certes, leur chambre devait être un peu plus grande, mais sûrement pas assez pour 3. Koiren et les autres sœurs encore prisonnières des Aiel devaient bénéficier d'un plus grand confort. Si Bera et Kiruna étaient absentes, Deigian se trouvait dans la chambre. Enrobée, le teint pâle, elle portait une fine chaîne d'argent autour de ses cheveux noirs, et une pierre de lune ronde pendait sur son front, juste au-dessus de la naissance de son nez. Le corsage de sa robe noire kyrienienne arborait 4 rayures de couleur, et elle avait ajouté au bas du vêtement des bandes blanches à la couleur de son aja. Fille cadette d'une maison noble mineure, elle avait toujours ressemblé, du moins aux yeux de Merana, à un pigeon ramier. Lorsque Katsuane entra, elle se redressa sur la pointe des pieds, comme si elle attendait des ordres. Le seul siège disponible dans la chambre n'était guère mieux qu'un tabouret doté d'un semblant de dossier. En soupirant, Katsuane se laissa tomber dessus.
« De l'infusion, par pitié. Deux gorgées de sel que m'a servi ce garçon, et ma langue aurait été sèche comme du vieux cuir. »
L'aura du Saïdar enveloppa aussitôt Deigian, une lueur bien blafarde, cela dit. Une bouilloire ébréchée lévita au-dessus de la table, des flux de feu se chargeant de chauffer l'eau pendant que la sœur ouvrait une boîte à tisane en cuivre. N'ayant pas d'autre choix, Merana prit place sur le lit. Le matelas défoncé cédant à moitié sous son poids, elle ajusta le bas de sa robe et tenta de mettre un peu d'ordre dans ses idées. La négociation qui allait suivre serait peut-être une des plus importantes de sa vie. Après un moment, Anoura vint s'asseoir au bord du lit, le dos bien droit.
« De ta présence, Merana, »
dit abruptement Katsuane.
« Je déduis que toutes les histoires au sujet de la soumission du garçon à Elaïda sont des âneries. N'aie pas l'air si surprise, mon enfant. Crois-tu que je ne sais rien de votre association ?»
Elle prononça ce mot avec un tel mépris qu'il parut aussi grossier que les éructations d'un soldat.
« Et toi, Anoura ? Je suis ici pour conseiller Berelaine, et strictement rien d'autre. Hélas, rien qu'en venant, elle n'a pas tenu compte de mon avis. »
Tête haute, la sœur originaire du Tarabon parlait d'une voix ferme. Mais elle se tordait nerveusement les doigts. Avec un tic si visible, elle n'aurait pas pesé lourd à une table de négociation.
« Pour le reste, je n'ai pas encore pris de décision. » « Une sage décision en soi, »
souffla Katsuane avec un regard appuyé pour Merana.
« Ces dernières années, il semble que bien des représentantes aient oublié qu'elles possèdent un cerveau, et qu'elles sont en principe tenues à la discrétion. Il fut un temps où les Aes Sedai arrêtaient leurs décisions après des débats sereins, et avec le bien de la tour à l'esprit. Anoura, n'oublie pas ce que cette gamine de Sanche a récolté pour s'être impliquée vis-à-vis d'Altor. Si on s'approche trop près d'une forge, on risque d'être gravement brûlé. »
S'avisant qu'elle bougeait la tête pour détendre les muscles de son cou, Merana se força à arrêter. Katsuane n'occupait pas une position beaucoup plus élevée que la sienne, enfin, pas tant que ça. L'ennui, c'était que ça la plaçait au-dessus de toutes les sœurs.
« Si je peux me permettre de demander. »
Un ton et une formulation trop humbles, mais se reprendre aurait été encore pire. Quelles sont tes intentions, Katsuane? De manière évidente, tu t'es tenu à l'écart de tout ça jusqu'à présent. Pourquoi as-tu décidé de venir voir Altor à ce moment précis? Avec lui, tu t'es montré bien peu diplomate.
Tu aurais eu aussi vite fait de le gifler,
intervint Anura. Mais Rana rosit légèrement. D'elle deux, c'était Anura qui aurait dû se sentir le plus mal à l'aise avec Katsuane. Et pourtant, elle ne mâchait pas ses mots. Katsuane secoua la tête, mimant la compassion.
Quand on veut voir ce qu'un homme a dans les tripes, il faut le pousser dans une direction qu'il n'attend pas. Ce garçon est fait d'un bon métal, mais il nous posera des problèmes. En lui, il y a une colère assez forte pour dévaster le monde, et il la retient de justesse. Si on le fait pencher un peu trop d'un côté, boum! Altor n'est pas aussi dur que Logain Ablar ou Mazrim Taïm, mais 100 fois plus difficile à influencer.
Entendre ces trois noms cités dans une même phrase cloua le bec à Merana.
Tu as vu Logain et Taïm?
Demanda Anura, ébahi.
D'après ce qu'on dit, Taïm est fidèle à Altor.
Merana parvint à réprimer un soupir de soulagement. Les nouvelles des puits de Doumaï n'étaient pas encore arrivées jusqu'ici, mais ça ne tarderait pas.
J'ai aussi des oreilles pour entendre les rumeurs, Anura,
lâcha Katsuane.
Cela dit, j'aimerais mieux être sourde plutôt que d'avoir entendu ce qu'on raconte sur ces deux types. Toute mon œuvre anéantie. D'autres y ont travaillé aussi, mais j'ai fait ma part. Et voilà que déboulent ces hommes en veste noire, les achamans.
Prenant la tasse que lui tendait Deigyan, Katsuane sourit et dit merci. La sœur blanche aux joues rondes faillit s'incliner, mais elle se reprit et fila dans un coin de la pièce. Après avoir été novice, puis acceptée, plus longtemps que quiconque depuis des lustres, elle avait failli être expulsée, puis avait gagné la bague d'un souffle et le châle d'un cheveu. Du coup, en présence d'autres sœurs, elle ne se mettait jamais en avant. Après avoir humé l'arôme de son infusion, Katsuane reprit sur le ton d'une amicale conversation.
« C'est Logain, venu pratiquement sur le pas de ma porte, qui m'a forcé à abandonner mes roses. Foutaise! Une simple bagarre dans une foire aux moutons aurait suffi à me faire quitter ces fleurs maudites par la lumière. Si on utilise le pouvoir, c'est ennuyeux comme la pluie. Et si on ne l'utilise pas, on obtient 10 000 épines pour chaque... Mais parlons d'autre chose. J'ai sérieusement envisagé de prêter le serment de quêteuse du corps, si le Conseil des Neufs m'y autorisait. Traquer Logain fut vraiment un plaisir, mais une fois capturé, le conduire à Tarvalon m'enthousiasmait autant que les sacrées roses. J'ai roulé ma bosse, histoire de voir ce que je pourrais trouver. Un nouveau champion, peut-être, même si, à mon âge, n'est pas une chose très équitable à faire à un homme. Quand j'ai entendu parler de Taïm, j'ai filé au Saldaea à la vitesse du vent. Pour se distraire un peu, rien de tel qu'un homme capable de canaliser.
Brusquement, son ton et son regard se durcirent.
L'une de vous deux a-t-elle été impliquée dans cette infamie, après la guerre des Aiel?
Malgré elle, Merana sursauta. Dans les propos de Katsuane, on entendait la hache d'un bourreau s'abattre sur un coup.
« Quelle infamie! De quoi parles-tu? La guerre des Aiel ?»
répéta Anura, sonnée comme si elle venait de recevoir une paire de gifles.
« Les années qui l'ont suivie, j'ai tenté de donner un peu de substance à cette prétendue grande coalition. »
Merana regarda Anura avec un grand intérêt. Après cette guerre, beaucoup de sœurs grises étaient allées de capitale en capitale, avec le vain espoir d'empêcher la disparition de cette fameuse coalition. Jusque-là, elle ignorait qu'Anura était du lot. Dans ce cas, elle ne devait pas être une si mauvaise négociatrice que ça.
Moi aussi, c'est ce que j'ai fait.
Enfin des paroles prononcées avec toute la dignité requise. Ces derniers temps, en matière de dignité, Merana avait subi de lourds revers. En conséquence, le peu qui lui restait devenait extrêmement précieux.
De quelle infamie parles-tu, Katsuane?
La sœur verte balaya la question d'un geste, comme si elle n'avait jamais rien dit. Merana se demanda si Katsuane ne commençait pas à perdre un peu l'esprit. À sa connaissance, ce n'était jamais arrivé à une sœur, mais les Aes Sedai, dans leur immense majorité, prenaient toute une sorte de retraite à la fin de leur vie, rompant avec les machinations et les intrigues dont la Tour Blanche avait le secret. La plupart du temps, ces femmes s'exilaient loin de tout. Comment dire dans quel état elles étaient au bout du chemin? Mais un simple coup d'œil à Katsuane suffit à décourager Merana d'aller plus loin dans cette voie. En tout cas, cette infamie, vieille de 20 ans, ne devait pas être grand-chose comparé à ce que le monde affrontait aujourd'hui. Et Katsuane n'avait toujours pas répondu aux deux premières questions de Merana. Qu'étaient ses intentions? Et pourquoi se montrer maintenant? Alors que la sœur grise allait les reposer, ces fameuses questions, la porte s'ouvrit pour laisser passer Bera et Kiruna, escortés par Corel Ovian. Un peu garçon manqué,
Cette mince sœur jaune était dotée d'épais sourcils noirs et d'une tignasse de cheveux tout aussi noirs qui lui donnait toujours un air négligé, quel que soit le soin qu'elle mettait à s'habiller. Vraiment dommage, parce qu'elle avait tendance à se parer chaque jour comme pour aller au bal, avec une abondance de dentelles sur ses manches, son col et même les flancs de sa jupe. Avec tant de gens, il devint presque impossible de bouger dans la petite chambre. En toutes circonstances, Corelle avait l'air amusée. Là, elle arborait un grand sourire, à mi-chemin entre la perplexité et la franche hilarité. Sur son visage arrogant, les yeux de Kiruna lançaient des éclairs. Quant à Béra, elle bouillait de colère, le front plissé et la bouche pincée. Bien entendu, tout ça cessa dès que les deux sœurs virent Katsuane. Pour elle, songea Merana, ce devait être comme se retrouver nez à nez avec Aline Diffel, Slevana Messo ou même Mabriam en Chéred.
« Je te croyais morte !»
souffla Béra, tandis que Kiruna en restait bouche bée.
« Je commence à en avoir assez d'entendre ça, »
grogna Katsuane.
« La prochaine imbécile qui le dira risque de le regretter pendant une bonne semaine. »
Anoura s'intéressa soudain à la pointe de ses chaussures.
« Vous ne devinerez jamais où j'ai trouvé ces deux-là !»
fit Corelle, avec son accent chantant du Murandi. Comme toujours quand elle allait dire quelque chose de drôle, ou qu'elle jugeait ainsi, elle tapota le bout de son nez retroussé. Les joues de Kiruna et de Béra prirent soudain un peu plus de couleur.
Docile comme une souris, Béra était assise sous le regard de six de ses naturels, venus du désert. Lesquels m'ont fait savoir, croyez-le ou non, qu'elle ne pourrait pas venir avec moi avant que Sorilea, une harpie à vous en donner des cauchemars, ait fini de parler en privé avec l'autre apprenti, notre chère Kiruna, bien entendu.
Cette fois, Kiruna et Béra rougirent jusqu'à la racine des cheveux. Degyan elle-même osa les regarder sans cacher sa stupéfaction. Un délicieux soulagement submergea Merana. Ainsi, ce ne serait pas à elle d'expliquer à Katsuane comment les matriarches avaient interprété l'ordre d'obéir aux Aiel qu'Altor, soit-il mille fois maudit, avait donné aux sœurs. Bien sûr, elles n'étaient pas vraiment des apprentis, et on ne leur donnait pas de leçons. Qu'aurait donc pu enseigner à des Aes Sedai une bande naturelle doublée de sauvages? Mais les matriarches, simplement, aiment bien pousser les gens dans leur dernier retranchement. Simplement. Béra et Kiruna auraient pu témoigner de la réaction d'Altor. Ce sale gamin avait ri. Oui, ri. Affirmant que les détails ne faisaient aucune différence à ses yeux et que les Aes Sedai avaient intérêt à être des élèves obéissantes. Bien entendu, aucune sœur n'avait plié l'échine dans la joie, et Kiruna moins que tout autre. Bizarrement, Katsuane ne demanda aucune explication.
« Je m'attendais à de la bouillie pour les chats, »
dit-elle.
« Mais pas à un seau de détritus. Voyons si j'ai bien tout compris. Les gamines qui se sont révoltées contre une chère d'Amirline régulièrement nommée se sont associées avec ce sale gosse de Randaltor. Et puisqu'elles prennent leurs ordres chez les matriarches, j'imagine qu'elles obéissent aussi aux siens. »
Katsuane grogna comme si elle venait d'avaler un plein panier de prunes pas mûres. Elle baissa les yeux sur sa tasse, puis regarda de nouveau les deux sœurs.
« C'est ce qu'on appelle une trahison, non ? Le hall pourrait vous condamner à marcher à genoux jusqu'au jour de Tarmon Gaidon. Cela dit, il ne pourrait vous faire décapiter qu'une fois. Et les autres sœurs prisonnières dans le camp des Aiel, des partisanes d'Elaïda, je suppose ? Devenues elles aussi des... apprentis ? Nous n'avons pas pu approcher de la première rangée de tentes. Ces Aiel ne semblent pas porter les Aes Sedai dans leur cœur. Je ne peux pas te répondre,
dit Kiruna, si rouge qu'elle semblait sur le point de s'embraser.
On nous a tenus à l'écart.
Merana crut avoir une hallucination. La première fois qu'elle entendait Kiruna parler d'un temps soumis. Béra prit une grande inspiration. Se tenant déjà droite, elle parut se redresser encore plus pour s'acquitter d'une corvée.
« Elaïda n'est pas... »
commença-t-elle, très véhémente.
« Pour ce que j'en sais, »
coupa Katsuane,
« elle est trop ambitieuse. »
La sœur au chignon gris se pencha si brusquement en avant que Merana et Anoura reculèrent sur leur lit, alors qu'elles ne les regardaient même pas.
C'est peut-être une catastrophe, Angésine, mais elle reste la chair d'Amirline, élevée par le hall dans le strict respect des lois de la tour. Si Elaïda est légitime,
demanda Béra,
pourquoi n'as-tu pas obéi quand elle a ordonné à toutes les sœurs de revenir à la tour?
Un seul signe trahissait la nervosité de la sœur, l'immobilité de ses mains sur le devant de sa robe. Pour qu'elle soit pétrifiée ainsi, il fallait qu'un gros effort de volonté les empêche de plisser ou de lisser le tissu.
Ainsi l'une d'entre vous a un peu de courage,
s'esclaffa Katsuane, mais son regard resta de glace.
« Asseyez-vous à présent. J'ai beaucoup de questions à vous poser. »
Merana et Anoura se levèrent, offrant leur place sur le lit. Mais Kiruna ne broncha pas, les yeux rivés sur Katsuane. Quant à Béra, elle regarda son amie, puis hocha la tête. Roulant des yeux, Corel sourit pour une raison connue d'elle seule, mais la sœur au chignon gris ne sembla pas le remarquer.
« La moitié des rumeurs que j'ai entendues, »
dit Katsuane,
« prétendent que les rejetés arpentent de nouveau le monde. Avec tout ce qui se passe d'autre, ça ne m'étonnerait pas. Mais avez-vous des preuves pour ou contre cette possibilité ?»
Très vite, Merana se félicita d'être assise. Et très vite, elle comprit ce que pouvait ressentir le linge dans l'essoreuse d'une blanchisseuse. Katsuane enchaînait les questions, en sautant sans cesse du coq à l'âne, afin que ses victimes ne sachent jamais à quoi s'attendre. Corel se tenait tranquille, gloussant ou secouant la tête de temps en temps. Bien entendu, Deigian ne se permettait même pas ça. Si Merana, Bera et Kiruna subirent le pire de l'interrogatoire, Anura ne fut pas épargnée pour autant. Chaque fois qu'elle se détendait un peu, pensant ne plus être dans le collimateur de Katsuane, celle-ci ne manquait pas de la détromper. Elle voulait tout savoir. L'étendue du pouvoir d'Altor sur les Aiel, ce qui poussait une maîtresse des vagues à faire mouiller un bateau du peuple de la mer dans le fleuve, si Moiraine était vraiment morte, si le garçon avait vraiment redécouvert l'art antique de voyager, et si Berelaine avait partagé sa couche ou en nourrissait l'intention. Comme de juste, il était impossible de dire ce qu'elle pensait des réponses qu'elle obtenait. Sauf en une occasion, quand elle apprit qu'Alana s'était liée à Altor, et dans quelles conditions. Les lèvres pincées, elle fronça les sourcils au-dessus de son regard perçant. Mais tandis que toutes les autres sœurs grimaçaient de dégoût, Merana songea que Katsuane, un peu plus tôt, avait confié qu'elle aurait bien pris un nouveau champion, quelques mois auparavant. Très souvent, les sœurs furent incapables de répondre. Mais leur ignorance ne découragea pas la vive curiosité de Katsuane. Elle pressa ses victimes comme un citron, leur arrachant un jus qu'elle n'avait pas conscience d'avoir. Elles parvinrent cependant à cacher quelques petites choses, celles qui devaient rester secrètes. Mais des informations étonnantes jaillirent quand même au grand jour. Par exemple, Anura laissa échapper qu'elle avait reçu des lettres détaillées de Berelaine, quasiment depuis que celle-ci était partie pour le Nord. Katsuane exigeait des réponses et n'en donnait jamais. Ça inquiéta Merana, surtout quand elle vit les autres prendre peu à peu des expressions butées, défensives ou exagérément humbles. La même chose lui arrivait-elle ?
« Katsuane, »
osa-t-elle demander à un moment.
« Pourquoi t'intéresses-tu au garçon maintenant ?»
La sœur au chignon gris fixa un moment l'insolente. Puis elle se tourna vers Bera et Kiruna.
Ainsi, elles ont réussi à l'enlever au beau milieu du palais,
dit-elle, en tendant sa tasse à Deigian. Personne d'autre n'avait eu le droit de boire. Le ton et l'expression de Katsuane, un parangon de neutralité, valurent des frissons glacés à Merana, et lui donnèrent envie de s'arracher les cheveux. S'il apprenait que Kiruna avait parlé de l'enlèvement, même sans le vouloir, Altor risquait de ne pas être content. Mais au moindre lapsus, Katsuane n'avait pas son égal pour tirer les vers du nez à quelqu'un. Au moins, les détails de l'affaire, le coffre par exemple, étaient restés dans l'ombre. Une chance, parce que Altor avait insisté sur ce point, et répété qu'il serait furieux s'il advenait que tout se sache. La lumière en soit louée, Katsuane ne s'attarda jamais assez longtemps sur un sujet pour qu'on risque d'en arriver là.
« Vous êtes sûr que c'était Taïm, et que ces types en veste noire ne sont pas arrivés à cheval ?»
Bera acquiesça sans enthousiasme. Et Kiruna l'imita. Elles étaient sûres autant qu'on pouvait l'être, puisque personne n'avait vu les achamans arriver ou repartir. Quant au trou qui les avait tous ramenés ici, il avait pu être fait par Altor. Katsuane ne se satisfit évidemment pas de ses réponses.
Réfléchissez, bon sang! Seriez-vous encore des gamines sans cervelle? Vous devez avoir remarqué quelque chose!
Merana sentit son estomac se nouer. Avec les autres sœurs, elles avaient passé la moitié de la nuit à discuter de ce que voulait exactement dire leur serment à Altor. Pour conclure qu'il disait exactement ce qu'il semblait vouloir dire, sans échappatoire possible. Même Kiruna avait fini par admettre qu'elle devait désormais défendre et soutenir Altor, et lui obéir pleinement, sans tenter de se défiler. Ce que ça signifiait par rapport à Elaïda et à ses partisanes ne semblait inquiéter personne. En tout cas, pas une sœur n'avait laissé transparaître de l'inquiétude. Le simple fait qu'elles aient arrêté une décision et défini leur position tenait du miracle. Merana se demanda cependant si Kiruna et Bera avaient tiré une conséquence majeure de tout ça. Désormais, elles étaient susceptibles de s'opposer ouvertement à une légende de la tour et à toutes les sœurs, en plus de Corel et des Yann, qui décideraient de se ranger dans son camp. Le pire, les yeux de Katsuane se posèrent sur Merana, exigeant tout et ne donnant rien. Le pire, Merana en aurait mis sa main au feu, c'était que la légende en question le savait très bien. Marchant à grands pas dans les couloirs du palais, Mine ignora les saluts d'une bonne demi-douzaine de promises qu'elle connaissait. Pas un instant, elle ne songea que continuer à trotter ainsi, sans un mot pour les Aiel, était d'une impolitesse avérée. En revanche, trotter n'était pas simple, quand on portait des bottines à talons hauts. Quelles imbécilités les femmes pouvaient faire pour un homme. Non que Rand lui eût demandé de mettre ses chaussures, mais la première fois qu'elle les avait portées, c'était pour voir si elles lui plairaient, et il avait souri. Donc il avait apprécié. Pas la lumière. Comment pouvait-elle penser à des bottines? Elle n'aurait jamais dû aller dans les appartements de Colavere. Tremblant et luttant contre les larmes, Mine se mit à courir. Comme d'habitude, plusieurs promises étaient assis sur les talons devant les grands battants ornés d'un soleil levant. Le choufa pendant sur les épaules, leur lance posée sur les genoux, ses aïeules n'en avaient pas l'air inoffensives pour autant. Elles évoquaient plutôt des léopards, attendant de bondir pour tuer. En général, et même si elles étaient amicales avec elles, Mine se sentait mal à l'aise en présence de promises. Aujourd'hui, elles auraient tout aussi bien pu être voilées.
« Il est d'une humeur de chien !»
dit Rialine. Mais elle n'esquissa pas un geste pour arrêter Mine, une des rares personnes autorisées à entrer chez Rand sans être annoncée. Tirant sur sa veste, la jeune femme tenta de se ressaisir. À la vérité, elle n'aurait su dire pourquoi elle était venue. Sans doute parce qu'elle se sentait en sécurité près de Rand. Que la lumière le brûle. Jusque-là, elle n'avait jamais eu besoin de quelqu'un pour ça. Dès qu'elle fut entrée, Mine se pétrifia, horrifiée. Puis elle se reprit un peu et ferma la porte derrière elle. La salle était dévastée. Si de rares éclats de verre restaient accrochés au cadre des miroirs, le sol en était en revanche jonché. La plateforme renversée, le trône gisait au pied du mur qui l'avait percuté avant de retomber lourdement. Un des lampadaires, pourtant en fer sous le plaquage d'or, était plié en quatre. Assis dans un petit fauteuil, en bras de chemise, Rand contemplait le plafond, les bras ballants. Des images tournaient autour de sa tête, ainsi que des auras colorées qui scintillaient puis disparaissaient. Pour ça, il était comme les Aes Sedai. Quand une sœur ou lui étaient dans les parages, Mine n'avait pas besoin d'illuminateur pour avoir droit à un feu d'artifice. Lorsqu'elle avança, Rand ne broncha pas, comme s'il ne la voyait pas. Entendant crisser des éclats de verre sous ses bottines, Mine songea que pour une humeur de chien, c'était une sacrée humeur de chien. Elle n'en conçut aucune angoisse. Comment imaginer que Rand puisse lui faire du mal? En revanche, elle était assez éprise de lui pour quasiment oublier ce qu'elle avait vu dans les appartements de Colavere. Oui, elle était follement amoureuse de lui, et elle l'assumait pleinement. Rien d'autre ne comptait. Tant pis s'il était un fichu lourdeau de la campagne, plus jeune qu'elle par-dessus le marché. Tant pis s'il était le dragon réincarné, destiné à mourir fou si personne ne réussissait à le tuer avant.
« Je me fiche même de devoir le partager »,
pensa Mine. Pour se mentir ainsi à elle-même, il fallait vraiment qu'elle soit mordue. Cela dit, elle avait accepté cette réalité. Elaine possédait une partie de Rand, elle avait un droit sur lui. Tout comme cette Avienda qu'elle n'avait pas encore rencontrée. Et comme disait tante Jeanne, quand on ne peut pas changer quelque chose, il faut faire avec. Surtout quand on n'avait plus tous ses esprits. Dire qu'elle s'était toujours engorgée de sa logique et de son sang-froid. Mine s'arrêta près d'un fauteuil, dont le dossier était traversé de part en part par le fer du sceptre du dragon. Amoureuse d'un homme qui ne le savait pas et qui l'enverrait loin de lui s'il s'en apercevait un jour. Un homme, elle en était sûre, qui l'aimait aussi. Comme il aimait Elaine et cette Avienda. Mais ça, il fallait faire avec. Rand était amoureux d'elle, et il refusait de l'admettre. Parce que Loustérine Telamon avait tué sa bien-aimée, pensait-il être condamné à faire de même?
« Je suis content que tu sois là, »
dit soudain Rand, sans cesser de fixer le plafond.
« J'étais assis seul, comme toujours.
» Il eut un rire amer.
« Eritfel est mort. »«
Non, pas ce vieil homme si gentil. »
« Déchiqueté. »
souffla Rand d'une voix creuse.
Idrienne s'est évanouie quand elle l'a trouvée. Elle est restée ainsi la moitié de la nuit, puis s'est réveillée dans un état second. Une femme, à l'école, lui a donné quelque chose pour dormir. Elle était très gênée à cause de ça. Quand elle est venue me voir, elle a recommencé à pleurer. Mine, c'est l'œuvre d'une créature des ténèbres. Qui d'autre pourrait démembrer ainsi un homme?
Sans bouger la tête, Rand frappa si fort à l'accoudoir de son fauteuil que le bois se craquela.
« Mais pourquoi? Pourquoi l'a-t-on éliminé? Qu'aurait-il pu me dire ?»
Malgré le choc, Mine tenta de réfléchir. Maître Fell était un philosophe. Avec lui, Rand parlait de tout, du sens des prophéties du dragon à la nature de la brèche, dans la prison du Ténébreux. Fell avait permis à la jeune femme de lui emprunter des livres fascinants, surtout quand elle devait travailler dur pour comprendre ce qu'il disait. Un philosophe qui ne lui prêterait jamais plus de livres.
et un gentil vieux bonhomme tellement immergé dans l'univers de l'esprit qu'il était surpris quand le monde extérieur se rappelait à lui. Min gardait précieusement un petit mot qu'il avait écrit à Rand pour signaler qu'il la trouvait très jolie et que ça le distrayait. Et voilà qu'il n'était plus rien. Pas la lumière. Elle en avait assez de la mort.
Je n'aurais pas dû te le dire si brusquement.
Min sursauta, car elle n'avait pas entendu son ami traverser la pièce. Il lui caressa la joue, écartant des larmes sous ses doigts.
Désolé, Min, vraiment. Je ne suis plus un type bien, tu sais. Un homme est mort à cause de moi. Tout ce qui m'intéresse, c'est pourquoi on l'a tué.
Min enlaça Rand et enfouit la tête contre sa poitrine, incapable de cesser de pleurer et de trembler.
Je suis allé dans les appartements de Dame Colavere.
Des images défilèrent dans la tête de Min. Le salon désert, sans l'ombre d'un serviteur. La chambre. Elle aurait voulu ne pas se souvenir, mais maintenant qu'elle avait commencé, c'était trop tard.
Comme tu l'as exilée, j'ai cru que ma vision la concernant n'était pas... Eh bien, pour tout de suite.
Colavere portait ce qui devait être sa plus belle robe. Un modèle en soie noire brillante, ornée de dentelles de sovara de couleur ivoire, tant elle était ancienne.
J'ai cru que ça pouvait être différent pour une fois. Tu es ta Verène, Rand, quelqu'un qui peut changer la trame.
Colavere portait un collier et des bracelets de pierres précieuses, et des bagues avec un rubis ou une émeraude, ses plus beaux bijoux sans aucun doute, et des diamants dans ses cheveux imitaient assez bien la couronne du Kyrienne. Son visage... Elle était dans sa chambre, pendue à un montant de son lit. Les yeux exorbités, la langue dardée, la peau déjà noire. À ses pieds, un tabouret renversé. Min se serra contre Rand. L'enlaçant aussi, il souffla.
Min, ton don t'apporte plus de souffrance que de plaisir. Si je pouvais prendre en moi ton chagrin, je le ferais, je te jure.
Min s'aperçut enfin que Rand tremblait aussi. Il s'efforçait d'être en acier, pour correspondre à l'image qu'il se faisait du dragon réincarné. Mais il était dévasté quand quelqu'un mourait à cause de lui. Que ce soit Colavere ou Fel, il pleurait pour toutes les victimes, même s'il faisait semblant de ne plus avoir de larmes.
« Embrasse-moi, »
dit Min. Voyant qu'il ne réagissait pas, elle leva les yeux et croisa le regard du jeune homme, bleu-gris comme un ciel matinal.
« Rand, ce n'est pas un jeu. »
Combien de fois l'avait-elle taquiné, s'asseyant sur ses genoux, l'embrassant et l'appelant berger de crainte, si elle prononçait son prénom, de trahir tout ce qu'elle éprouvait. Il la supportait, convaincu qu'elle arrêterait un jour s'il restait de marbre. Foutaise. Tante Jan et tante Rana disaient qu'il ne fallait pas embrasser un homme, sauf si on comptait l'épouser. Mais tante Myrène semblait connaître un peu mieux la vie. Pour elle, il ne fallait pas embrasser un homme pour s'amuser, parce que les mâles ont tendance à tomber amoureux trop facilement.
« Je suis glacé à l'intérieur, berger. Colavere, puis maître Fel. J'ai besoin de chaleur, de... S'il te plaît. »
Rand baissa lentement la tête. Un baiser fraternel au début, tendre, doux et réconfortant. Puis ça changea. Plus question de réconfort. Rand tenta de relever la tête.
Min, je ne peux pas. Quel droit ai-je de...
Refermant les mains sur ses cheveux, Min attira Rand vers elle. Après un moment, il cessa de résister. Sans pouvoir dire si c'était elle qui avait commencé à déchirer la dentelle de la chemise du jeune homme, ou lui qui s'en était pris à la sienne d'abord, Min avait néanmoins une certitude. S'il manifestait l'intention d'arrêter maintenant, elle irait emprunter une lance à Rialine, non, plusieurs, et elle l'embrocherait sans pitié. En cheminant vers la sortie du palais, Katsuane étudia discrètement toutes les naturelles qu'elle croisait. Intéressante, ces aïelles. Corel et Deyan la suivaient en silence, trop malignes pour la déranger avec leur bavardage. Une qualité qui manquait cruellement aux sœurs qui s'arrêtaient quelques jours au petit palais d'Ariline avant qu'elle les envoie en mission. Intéressante, ces aïelles. Surtout avec leur façon de regarder trois Aes Sedai, comme s'il s'agissait de chiens galeux et pleins de puces, laissant des traces de pattes boueuses sur un tapis tout neuf. Beaucoup de gens considéraient les Aes Sedai avec une certaine crainte ou une fébrile adoration. D'autres avec une sainte terreur ou une haine féroce. Mais du mépris, eh bien, c'était la première fois que Katsuane voyait ça. Même les capes blanches ne lui avaient jamais fait ce coup-là. Cela dit, un peuple qui donnait le jour à tant de naturels aurait dû envoyer des contingents de jeunes filles à la tour. Il serait bon de revoir ça, et que la fosse de la perdition emporte les coutumes s'il le fallait.
mais c'était pour plus tard. Pour l'heure, ce fichu garçon comptait plus que tout. Il allait falloir l'intriguer assez pour qu'il autorise Katsuane à être près de lui, et le déstabiliser assez pour pouvoir le manipuler sans qu'il en ait conscience. Dans tous les cas de figure, tout ce qui risquait de saboter ce plan devait être contrôlé ou supprimé. Et rien qui n'allait pas dans le bon sens ne devait pouvoir influencer le garçon ou le perturber. Avec son superbe attelage de 6 chevaux gris, le carrosse noir laqué attendait dans la cour. Un serviteur accourut pour ouvrir la portière sur laquelle figuraient 2 étoiles d'argent sur fond de rayures rouges et vertes. Bien entendu, l'homme s'inclina si bas devant les 3 sœurs que son crâne chauve faillit toucher ses genoux. Bizarrement, il était en bras de chemise et pantalon. Dans le palais du soleil, elle n'avait pas remarqué de domestiques en livrée, à part quelques hommes et femmes portant les couleurs de Dobraine. Ne sachant pas trop quoi mettre, les serviteurs prenaient le moins de risques possible, histoire de ne pas commettre un impair.
« Je risque d'écorcher Elaïda quand elle me tombera sous la main »,
dit Katsuane, alors que le carrosse s'ébranlait.
« Cette idiote me rend la tâche quasiment impossible. »
Sur ces mots, la sœur au chignon gris éclata de rire si brusquement que Degen la dévisagea, soufflée, avant de détourner la tête. Le sourire de Corel s'élargit, comme si elle attendait avec impatience le jour où Katsuane mettrait sa menace à exécution. Ces 2 idiotes ne comprenaient rien, et des explications auraient été une perte de temps. Depuis toujours, la meilleure façon d'attirer l'attention de Katsuane sur quelque chose consistait à utiliser le mot « impossible ». Et il fallait remonter à 270 ans pour trouver une mission qu'elle n'avait pas réussi à remplir. À son âge, chaque jour pouvait être le dernier. Mais le jeune Altor allait lui donner l'occasion de finir en beauté.